Bienvenue sur l'émission Constellation, qui se propose d'explorer en votre compagnie les arcanes stellaires et diamantins où nous conduit la poésie de tout temps et de tout lieu. Bonjour, la poétesse dont l'œuvre sera évoquée aujourd'hui, Anna Akhmatova, appartient à une génération de poètes que les historiens aiment à classer en acméistes. Le mot grec « acmé », que le français a conservé et retranscrit en « acmé », signifiant la partie aiguë d'un objet, sa pointe, le plus haut point de force, de puissance, le moment opportun. Dans l'édition de poche que j'utilise, très souvent celle de NRF Poésie Gallimard, voici ce qu'écrit la préface. Faut-il rappeler qu'Akhmatova est un pseudonyme et provoquant ? Dans Akhmatova, il y a Ahmed, nom coranique, qui a transfiguré son passage par l'Asie centrale. Anna Gorenko, c'est le nom premier d'Akhmatova, se vante d'avoir une grand-mère tartare et de descendre donc de ces envahisseurs qui ont fait gémir la Russie aux temps anciens. Les acméistes, dans les années 1910-1912, s'opposent au courant symboliste en ambitionnant un contact charnel, direct et sensuel avec la réalité. Au-delà de toute définition trop étroite, le mouvement croise aussi les courants futuristes qui germent à la veille de la Première Guerre mondiale avec Vladimir Mayakovsky comme figure de proue. Qu'ils y aient nommément appartenu ou qu'ils soient demeurés dans son sillage ou sous son influence, parmi les acméistes, on peut citer Nikolai Goumiliov et Ossip Mandelstam. Sans se réclamer expressément du mouvement, Boris Pasternak et Marina Tsvetaeva, à qui deux émissions ont été consacrées auparavant, ont entretenu des liens constants et même une communion de pensée avec les acméistes. Ce qui unit peut-être le plus toutes ces forces vives, toutes ces expériences poétiques, mais ce qui aussi les décapite, c'est l'histoire avec sa grande hache, selon l'expression de Georges Perec. En effet, tous, quand ils ne choisirent pas l'exil, furent broyés par le régime soviétique et plus tard stalinien. Mayakovsky se suicide en 1930, Mandelstam mourra en déportation en 1938 dans un camp près de Vladivostok, Tsvetaeva se pendra le 31 août 1941, et Nikolai Goumiliov, qu'Anna Akhmatova épousera en 1910, sera accusé de participation à une prétendue conspiration monarchiste et fusillé en 1921. Anna Akhmatova vivra en Russie jusqu'en 1966, soumise à une censure permanente, puisque dès 1925, elle fait l'objet d'une décision du comité central que la poétesse Marietta Chaguignan résume en ces termes « ne pas l'arrêter, mais ne pas la laisser publier ». Comme ce fut aussi le cas pour Marina Tsvetaeva, dont la famille sera persécutée et décimée, c'est le fils d'Anna Akhmatova, Lev Goumiliov, né en 1912, qui sera constamment arrêté avant comme après la Seconde Guerre mondiale. En somme, une génération qui, selon l'expression d'Akhmatova, n'a pas eu beaucoup de miel. Voici ce qu'elle écrit dans un recueil intitulé « Couronne pour les morts ». Des profondis, ma génération n'a pas eu beaucoup de miel. Voici que seul le vent gronde dans le lointain, seul chante le souvenir des morts. Notre tâche n'a pas été achevée, les heures nous étaient comptées, jusqu'à la distribution d'eau, jusqu'au sommet du grand printemps, jusqu'à la floraison folle. Il ne nous restait que le temps d'un souffle. Ma génération, deux guerres, ont éclairé ton terrible chemin. Pardon. Ces couronnes, dans ce même recueil, elle les tresse pour Mandelstam, pour Pasternak, pour Svetaïeva, pour Mikhaïl Bulgakov. Voici, par exemple, le poème « Réponse tardive » dédié à MTS, on reconnaît les initiales de Marina Tsvetaeva, et daté du 16 mars 1940, soit un peu plus d'un an avant le suicide de Marina. Réponse tardive. AMTS, noire magicienne aux mains blanches. Fée invisible, mon double marailleuse, pourquoi te caches-tu dans les buissons noirs? Tu te tapis dans un nichoir plein de trous, tu brilles sur les croix abattues, tu cries du haut de la tour de Marina. Aujourd'hui, je suis rentré chez moi. Voyez la bourre de mon pays. Comment j'en suis récompensé. Le gouffre a englouti ce que j'aimais. Ma maison natale est pillée. Nous sommes aujourd'hui avec toi, Marina. Nous marchons dans la capitale de minuit, suivis par des millions d'êtres humains. Il n'y a pas cortège plus silencieux. Tout autour de nous, un glas funèbre et, dans Moscou, les plaintes rauques de la tempête qui recouvre nos traces. Akhmatova composera aussi un recueil intitulé « Requiem » dans lequel elle retrace les mois durant lesquels elle tentera, sur le seuil de la prison Les Croix de Leningrad, d'apercevoir son fils, presque toujours vainement, comme tant d'autres femmes, sombre anticipation de ses mères de la place de Mai en Argentine, dont les enfants étaient censés avoir disparu. Voici l'avant-propos de Requiem, avec une épigraphe. Je précise d'abord que celui qui se nomme Nikolaï Yejov a dirigé le NKVD, c'est-à-dire le Commissariat du Peuple aux Affaires Intérieures, de 1936 à 1938, le NKVD de sinistre mémoire, puisque c'est l'ancêtre du KGB. Et voici donc cet avant-propos avec l'épigraphe. Non, je n'étais pas sous un autre ciel, protégé sous une aile étrangère. J'étais alors avec mon peuple, là où il était pour son malheur. Dans les terribles années de la tyrannie de Yejov, j'ai passé 17 mois à faire la queue devant la prison à Leningrad. Une fois, quelqu'un m'a identifié. Elle a placé des guillemets pour le mot identifié. Alors, la femme aux lèvres bleues qui était derrière moi, elle n'avait évidemment jamais entendu mon nom, s'est réveillée de cette torpeur qui nous était propre à toutes et m'a demandé à l'oreille. Là, tout le monde parlait en chuchotant. Et cela, vous pouvez le décrire? Et j'ai dit, je peux. Alors, quelque chose comme un sourire est passé sur ce qui, autrefois, avait été son visage. Cet avant-propos est daté du 1er avril 1957, c'est-à-dire une dizaine d'années après la rédaction de l'ensemble des poèmes de Requiem. Mais, pour ne pas laisser croire, car ce serait la trahir, qu'Akhmatova n'appartient qu'aux versants les plus sombres, qu'à des ubaks sans adresse, il convient de lire ceux de ses poèmes datés de la Première Guerre mondiale, ou plus exactement des années qui précèdent l'engagement de la Russie dans la guerre. Par exemple, ce poème sans titre, daté de 1916. Ils s'envolent. Déjà, ils sont en chemin. Les mots de libération et d'amour, avant les chansons, un trouble me prend et mes lèvres sont plus froides que glace. Mais bientôt, là où des bouleaux gluants se collant aux fenêtres, murmurent sourdement « Les roses vont se tresser en couronne pourpre et j'entendrai les voix des invisibles. » Plus loin, une lumière généreuse à l'excès, comme un vin rouge qui brûle. Déjà, d'un souffle parfumé, chauffé à blanc, ma conscience est embrasée. Un autre poème dédié au poète qu'elle considérait comme son maître, Alexandre Bloch. Je suis venu voir le poète. Il est juste midi. C'est dimanche. La pièce est grande et calme. Dehors, il gèle. Un soleil de framboise sur la fourrure des fumées grises. Le maître des lieux parle peu, il me regarde de ses yeux clairs. Il a des yeux si clairs qu'on ne peut pas ne pas s'en souvenir. Et moi qui suis prudente, je fais mieux de ne pas chercher à les voir. Je me rappellerai cette conversation, cette fumée à midi, ce dimanche, dans cette haute maison grise sur la Neva, aux portes de la mer. Un autre poème, sans titre, daté de 1913. Je le sais, une fois encore, la neige crisse sous les skis. Une lune rousse dans le ciel bleu sombre, une prairie en pente douce. Les fenêtres du palais sont allumées, éloignées par le silence. Pas un chemin, pas un sentier, des trous noirs dans la glace. Saule, arbre cher aux ondines, ne m'empêche pas de passer. Les branches couverte de neige, donne asile aux corbeaux noirs. autre poème sans titre, daté de 1913. Chaque jour apporte un trouble nouveau. L'odeur du seigle mûr est toujours plus forte. Si tu t'es couché à mes pieds, belle amie, ne bouge plus. Les loriots crient dans les grands érables. Rien ne les fera taire jusqu'à la nuit. J'aime chasser les guêpes folâtres loin de tes yeux verts. Sur le chemin, on entend un grelot. Ce son léger éveille en nous un souvenir. Je te chanterai, de peur que tu ne pleures, la chanson des soirs où l'on se quitte. Un autre texte, toujours sans titre, et cette fois-ci non daté. Le cœur perd lentement mémoire du soleil. L'herbe jaunit, le vent fait voler une neige tôt venue, juste un peu. Dans les canaux étroits, déjà l'eau se fige, ne coule plus. Il ne se passe jamais rien ici, oh jamais. Le saule a déployé sur le ciel vide sa dentelle en éventail. Peut-être il valait mieux que je ne sois jamais votre femme. Le cœur perd lentement mémoire du soleil. Qu'y a-t-il ? Le noir ? Peut-être. Une nuit va suffire pour que vienne l'hiver. Un autre texte, toujours sans titre, daté cette fois-ci de 1916. Cadeau du sommeil, je retrouve notre dernier paradis étoilé, la ville des fontaines pures, Bakhchisarai, la dorée. Là-bas, sous la clôture vive, près de l'eau méditative, nous avions plaisir à nous rappeler les jardins de Tsarskoye Sielo. Et soudain, nous avons reconnu l'aigle de Catherine. C'est lui. Il a quitté les portes de bronze, il a rejoint le fond de la vallée. Pour que la chanson de l'adieu cruel vive plus longtemps dans la mémoire, un automne au teint mat apporta dans le pli de sa robe des feuilles rouges. Il en jonchait les marches, là où je t'ai quitté, là d'où tu es parti, mon doux amour, pour le règne de l'ombre. Poème sans titre, daté de 1915. Je ne sais si tu es vivant ou mort, si l'on peut te chercher sur la terre, ou seulement quand on médite sur le soir, sur celui qui n'est plus, pleurer dans la lumière. Tout est pour toi, la prière de chaque jour, la fiévreuse langueur de l'insomnie, la troupe blanche de mes vers et le brasier bleu de mes yeux. Personne n'est plus proche de mon cœur, personne ne m'a fait autant souffrir, même celui qui m'a voué à la torture, même celui qui m'a aimé et oublié. Un autre poème, daté cette fois de 1915, toujours sans titre. J'arracherai ce jour de ta mémoire pour que ton regard, brumeux, désemparé, demande « Où ai-je vu ce lilas de Perse, ces hirondelles, cette maison de bois ?» En m'entendant nommer, tu te rappelleras la soudaine douleur des désirs indicibles. Dans des villes pensives, tu chercheras cette rue qui n'est sur aucun plan. En voyant arriver une lettre inattendue, en entendant derrière une porte une voix, tu penseras, c'est elle, elle-même, qui vient au secours de mon peu de foi. Et enfin, un dernier poème, daté de 1915. Rien ne t'a promis à moi, ni la vie, ni Dieu, ni un mien pressentiment secret. Pourquoi la nuit, devant le sombre seuil, hésites-tu? Le bonheur fait-il mal? Je ne vais pas sortir, te crier, sois l'unique, reste avec moi, jusqu'à l'heure de la mort. Je ne fais que parler de ma voix de cygne avec la lune injuste. Au cours de cette émission, vous avez pu entendre quatre compositions du compositeur russe Alexandre Scriabine. Tout d'abord, le prélude pour la main gauche, interprété par la pianiste coréenne Yuja Wang, puis le nocturne pour la main gauche, interprété par le pianiste Sergei Kuznetsov. Ensuite, extrait des 24 préludes opus 11, toujours de Scriabine, c'était Vladimir Horowitz qui interprétait le 13e prélude. Et enfin, le 8e prélude, toujours du même opus, était interprété par le pianiste Evgeny Zarafiantz. Cette émission hebdomadaire est diffusée en direct les mardis de 10h à 10h30 et rediffusée les vendredis de 13h30 à 14h. Vous pouvez aussi l'écouter, la réécouter en podcast, comme toutes les autres émissions des RLP.